Radio G 101.5 FM.
Le jour où on m'a dit...
Bonsoir les imaginaires.
Bonsoir.
Pierre-Marie et Karine dans le studio de Radio G jusqu'à 22h. Et ouais, on continue cet été à vous présenter notre émission. On va enfin diffuser l'interview d'Émilie Kerbalek. C'est bien ça, ceux qui l'ont interviewé. C'était toi, oui. Pierre-Marie.
Exactement. Bah non, c'était tous les deux.
Ah ouais, ça remonte un petit peu. Hein. C'était les Utopiales.
Il y a presque un an.
Le temps passe. Alors, sur son site, elle précise qu'elle est déjà programmée aux prochaines Utopiales. Voilà. Et elle venait à l'époque faire la promotion de son premier roman qui était sorti. Enfin, c'était pas son premier roman, c'était le premier à sortir chez Albin Michel Imaginaire. Et puis, ça tombe bien parce qu'en fait, j'ai vu que le suivant, qui n'est pas la suite apparemment, si j'ai bien écouté l'interview, sort le 31 août aussi chez le même éditeur.
Alors le bon côté qu'il y avait ce livre, mais elle vous en parlera, c'est que
bah oui.
C'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction, mais c'est très, c'est une science-fiction très japonisante puisque elle parle aussi de Satan Naftal, de la culture dans laquelle elle a baigné toute sa vie avant d'arriver en France, et donc ça permettait d'avoir, c'est pour ça qu'Albin Michel l'a édité, c'est que ça permettait d'avoir une science-fiction qui était assez éloignée des codes que nous avons l'habitude de voir, qui sont plutôt anglo-saxonnes, américaines.
Et
c'était une blague, mais
Karine aussi, tu vas nous
quitter les mondes d'automne.
Tu vas nous parler d'un roman sorti chez le même éditeur.
Oui, Afterland.
Quoi ? On n'a rien entendu.
Elle essaie une nouvelle technique pour parler à la radio.
Elle essaie de communiquer. Ouais, c'est raté.
Moins elle parle fort, moins on l'entend et donc plus elle est contente.
Et toi, Pierre-Marie
Moi, j'ai aussi décidé de vous parler. Là, ce soir, on va faire une émission full SF, si j'ai bien vu. Et c'est de la SF qui tâche. De la SF militaire. Ça va être OPEX de Laurent Jeunefort.
Pas Sébastien, parce que Sébastien, il a fait sa chronique, c'est toujours chez Albin Michel, une nouvelle série de livres dont vous êtes le héros pour les jeunes. Et on commence tout de suite avec un petit peu de musique, hein. Un groupe qui sera au Motocultor Festival dans un mois. Je vous en parlerai après, le groupe s'appelle She Passed Away.
We'll be right back.
aussi Passed Away dans Imaginaire sur le 101.5.
C'était un peu Back to the 80s, non?
Mais
très
Stranger Things. Complètement, complètement. Alors, ils disent qu'ils font de la Dark Wave, mais ouais, ça, on peut appeler ça de... Oui, oui, de ça fait référence à la Cold Wave, au post-punk.
C'est la disco.
Alors, un extrait de leur dernier album studio qui s'appelait Disco Anxiety.
D'accord.
Est-ce que vous avez reconnu la langue dans laquelle ils chantent?
Moi, je pense que c'est de l'islandais.
Turc.
Turc.
Ouais, c'est un duo dont un, je crois, vit en Grèce et l'autre en Espagne, mais ils sont tous les deux d'origine turque et ils chantent dans leur langue natale.
Ok.
Ce qui apporte un cachet un petit peu original quand même. Donc, c'était le morceau Renxis. On passe à la chronique de Karine.
Oui,
tout à fait. Allez, go!
Je vais vous présenter.
Ah, bah attends, ton générique là.
Non, mais tu peux le passer le générique, il n'y a pas de souci.
Donc, oui. Je vais vous présenter Afterland de Lauren Buck aux éditions Albin Michel Imaginaire. Afterland est un roman entre dystopie et thriller. Et pour une fois, ce ne sont pas les femmes qui sont victimes d'une société, ce sont les hommes, et oui messieurs, un virus vous a tous décimés.
Oh non.
Oh chic, des vacances.
Enfin presque. Car il reste quelques survivants, dont un jeune garçon nommé Miles. Son immunité le rend précieux, mais c'est aussi une souffrance. Dès le début du roman, on comprend qu'il a subi un nombre incalculable de tests pour découvrir l'origine de son immunité face à ce virus. Sa mère, Cole, a également subi des tests puisque le gouvernement américain pose l'hypothèse que cette immunité proviendrait du côté maternel. L'oppression est telle qu'ils vont devoir fuir ce laboratoire. En parallèle, la tante de Miles, prénommée Billy, a une idée malsaine, celle de profiter de la situation pour marchander le sperme de son neveu sur le marché noir. Oui, cette femme est ignoble et on la déteste très facilement. Cole va donc tout faire pour protéger son fils de sa propre sœur, déplaçant l'intrigue dans une course-poursuite effrénée. Cette intrigue est d'ailleurs bien ficelée, malgré l'alternance des points de vue. On suit Cole et son fils dans un chapitre, puis Billy dans un autre, et ainsi de suite. Cette narration polyphonique offre ainsi deux visions d'une même histoire. De même, les personnages sont très bien construits. Cole fait figure de femme forte et de mère, prête à tout, même à s'adonner au pire acte pour le bien de son enfant. Le jeune Miles est quant à lui doté d'une lucidité impressionnante. On observe au fil des pages son évolution et sa construction en tant que garçon sexualisé très jeune, car il n'a que 12 ans. Enfin, la tante Billy est une femme égoïste et ingrate. Le dégoût qu'elle provoque à la lecture est complètement réussi. Lauren Buck évoque dans Afterland de nombreuses problématiques. Premièrement, elle critique le racisme et la peur des étrangers dans la mentalité américaine à travers le métissage de Miles. Elle aborde également les enjeux d'une société matriarcale qui n'empêche aucunement la violence du patriarcat et les mêmes vices du gouvernement. Afterland est son 11e roman. Ouais. Elle a obtenu le prestigieux prix Arthur Clarke pour son roman Zoo City. Et je vous laisse avec la chanson.
Peut-être même, j'ai une petite question moi, sur le roman.
Oui, j'en ai plein aussi.
C'est plutôt contemporain? Tu parles d'anticipation, à part cette histoire de virus. Sinon, est-ce que ça se passe dans un monde tel qu'on le vit aujourd'hui?
Ben, justement, c'est 2022 ou 2023, si je dis pas de bêtises.
Donc, rien de futuriste ouais.
Non, pas
et ça fait combien de temps dans le roman que la situation est comme ça?
Elle ne le précise pas, en tout cas, je n'ai pas le souvenir.
Mais ça fait plusieurs générations.
Parce qu'elle ne développe pas forcément le contexte, en fait. Elle... Comment dire ? Elle explore plutôt les relations humaines, en fait, finalement.
Ok.
Entre les deux sœurs et entre justement la mère et le fils qui vont mener tout un combat finalement de survie, quoi.
Toi qui commences à être un peu âgé et qui a une bonne connaissance cinématographique, le résumé m'a beaucoup fait penser au film Le Fils de l'Homme, tu sais, où toute la population est stérile et il ne reste que...
C'était tiré d'un roman de P.D. James.
Ouais,
Les Fils de l'Homme.
Qui était sorti en 2005. Et il y avait eu un deuxième, c'était un avec Nicolas Cage, où pareil, la population est stérile et il reste une seule femme qui peut procréer. Et il faut la retrouver et la protéger.
Bon, allez, on te laisse passer ton morceau.
Je vous laisse donc avec la chanson Trip the Darkness du groupe Lacuna Coil sur Radio G.
Coil.
Ouais, Lacuna Coil.
Bon, les potards sont bien en rouge là. Dans l'imaginaire sur le 5.5. Pierre-Marie, c'est l'heure de ta chronique, je te mets ton générique.
Ah bon ?
Ouais.
Ok.
Le générique parfait, vraiment parfait, puisque nous allons parler d'exoplanètes et d'espace. Dans OPEX, Laurent Genefort nous décrit l'aventure. Vous savez ce que c'est un OPEX avant que je continue ?
Non, puis là il y a 3X en plus, non ?
Non, il y en a deux, on n'est pas loin. Et le triple X, c'est autre chose.
Ah ouais, bah, j'ai
les OPEX, ce sont les opérations extérieures, c'est quand les militaires partent en mission dans d'autres pays. Et là, avec 2X, c'est qu'ils partent dans d'autres pays.
Tu vois, je reçois un message qui me dit « enlève un X, Romain
». Ils ne partent pas dans un autre pays, mais ailleurs. Tu m'as coupé dans mes vannes. Franchement, je suis extrêmement déçu, sache-le. On va suivre un personnage qui n'a pas de nom. En fait, tout le roman, c'est une novella, puisqu'il s'agit ici d'une sortie, d'un inédit sorti chez Une Heure Lumière, la collection de chez Le Bélial Édition, lisable en 2 heures grand maximum si vous lisez aussi lentement que Karine. Vous allez suivre un personnage qui n'a pas de nom, puisque tout est écrit à la première personne et qu'on va suivre donc son évolution. Autrement dit, son nom, on s'en cogne. Alors qu'il est entouré d'énormément de personnages dont on connaît les noms et dont on s'en fout un petit peu. Puisque le plus important, c'est que ce personnage-là, il était militaire. Il était militaire, on le sait. On sait pas trop, on parle de l'Europe, on sait pas trop s'il est français, s'il est anglo-saxon, en tout cas, il appartient à l'ONU. C'est un détaché, un militaire détaché de l'ONU. Et il rentre dans une formation, un programme militaire qui s'appelle les OPEX, avec 2X et pas 3, merci Romain, qui est mis en place, entre l'ONU et le Blend. Mais qu'est-ce que c'est que le Blend? Et ben, le Blend, en fait, exactement, ce n'est pas ça. Mais l'idée s'en rapproche. Le Blend, c'est un consortium de races extraterrestres qui existent depuis des milliards d'années, bien avant l'humanité, et qui ont fini par décréter, au moment du récit, on est à peu près en 2030, que l'humanité a atteint un seuil d'intelligence suffisant pour
rejoindre le Blend.
Et ben non.
Ah bon.
Communiquer avec eux. Et là, on leur dit, écoutez, on ne veut surtout pas rentrer dans votre évolution. Donc, vous vous démerdez tout seul, mais on peut commencer à rapprocher votre civilisation de nos civilisations. Et pour ce faire, on va vous proposer, on vous envoie par petites touches un petit peu de technologie sur laquelle vont travailler vos scientifiques pour faire évoluer vos propres civilisations. En contrepartie de quoi, vous montez des groupes militaires que nous utiliserons dans nos campagnes militaires. Et on va suivre ce personnage-là qui est donc recruté pour la force OPEX. Et c'est ça. C'est un groupement militaire qui va aller faire la guerre, les guerres d'autres espèces sur d'autres planètes. C'est assez intéressant puisque la première chose qu'on voit dans ce livre et qu'on nous met vraiment dessus, c'est la dissociation cognitive. C'est un thème que nous allons aborder, nous, à Imaginaire en 2023, puisque c'est le thème de notre appel à texte. Mais là-dedans, il y a ce côté où les soldats vivent sur Terre, ont une vie terrestre, ne connaissent rien d'autre que l'humanité. On sait que les extraterrestres existent, mais le commun des mortels, vous et moi, ne les avons jamais rencontrés. Et là, on va se retrouver téléporté dans d'autres planètes à l'autre bout du système solaire pour combattre d'autres races. Et c'est pas possible. Et en fait, il nous explique, Laurent Genefort nous explique que les soldats ont une sorte de téléportation moléculaire. C'est-à-dire que le Blend a une technologie qui permet de créer à l'identique, de cloner à l'identique à l'autre bout de la galaxie, la même chose que vous, et de juste téléporter votre conscience.
Okay.
Vous vous retrouvez dans un corps identique au vôtre à faire la guerre ailleurs, mais vous êtes resté sur Terre et vous revenez. Et il y a le souci de la communication, le souci du référentiel. Et donc, sur ce moment de transvasement, en plus de transvaser votre conscience, on va inculquer à votre personnalité des référentiels, une langue extraterrestre, une façon de se mouvoir, une connaissance des différentes cultures que vous allez affronter ou que vous allez aider, et on va vous retirer tout ceci quand vous allez réintégrer votre corps d'origine à la fin de l'opération.
Mais est-ce que ça peut se passer très mal là-bas ?
Ça peut se passer très mal puisque on peut mourir. Et si vous mourrez là-bas, vous mourrez tout court.
Ok.
Il n'y a pas de deuxième chance. C'est un roman qui est à la fois très froid, dans le sens où il n'y a vraiment aucune empathie. Et c'est fait exprès parce que le personnage que nous incarnons, en le lisant, est atteint d'un syndrome de Restorff. Vous pouvez chercher un petit peu. Wow. C'est assimilé à un syndrome d'Asperger. C'est le trouble autistique. C'est-à-dire que vous manquez d'empathie.
Okay.
Vous cherchez toujours des choses nouvelles pour nourrir votre intelligence et votre curiosité, mais vous n'avez pas d'attachement. Et c'est justement un syndrome qui est très recherché, puisque du coup, les soldats qui partent là-bas n'y sont pas attachés, ne trouvent rien qui les attache, et reviennent sans rien laisser. Sauf que voilà, comme dans toutes les opérations, il y a du stress post-traumatique, il y a des choses qui restent, et même si on efface tous vos souvenirs et tout le référentiel qu'on vous a inculqué pour la mission, vous repartez avec quelque chose, et on vous le retire au moment où vous réintégrez votre corps. Donc là, le roman va vraiment s'intéresser justement à ça, au ce désir d'ailleurs, au ce désir de liberté de l'humanité. Là, l'humanité se retrouve face à une civilisation, à un consortium de civilisations beaucoup plus avancé que nous. Oui, mais est-ce qu'on en a besoin ? Les autres planètes ont des avantages, ont des inconvénients, ont leurs propres histoires, leur guerre, leur cycle de reproduction, toute la partie très écosystème social, écologique des autres planètes sont mises en avant. On retrouve ici l'auteur qui avait écrit le guide des extraterrestres, de la communication avec les extraterrestres, et aussi Point Chaud, si vous vous souvenez un petit peu de ces romans-là. Donc on a vraiment pas une étude, mais des postulats de façon dont la vie aurait pu évoluer, sachant que bah, les données physiques, les données environnementales, la gravité, les choses comme ça, se répercutent de la même manière sur Terre que sur d'autres planètes. Donc c'est juste des embranchements qui auraient pu être pris à un moment dans l'évolution de la vie. Et c'est ça que Laurent nous permet de découvrir, ou en tout cas, on discute avec l'auteur de ces questions-là. C'est très intéressant dans le sens où ça nous permet de voir une SF qui est à la fois une SF militaire, mais pas militariste. Il n'y a pas de promotion pour l'engagement. C'est pas un Starship Trooper. On suit vraiment des soldats qui... Voilà, c'est à un moment dans leur vie, on leur a laissé un choix, ils ont accepté ou non. Certains, ça s'est bien passé, d'autres, ça s'est mal passé. Il le dit d'ailleurs, à un moment donné, un mec, ils ont une date de péremption, ces soldats-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de faire plus d'un certain nombre de missions à l'extérieur. On considère qu'après, leur psyché est totalement détruit. Donc, ça s'arrête avant. Et on nous parle d'un soldat qui a fait à peu près la même classe que notre personnage, qui a fait le nombre de missions, et en revenant, il n'en pouvait plus, il est sombré dans l'alcoolisme, et il a fini par se faire abattre par les policiers aux États-Unis pour avoir voulu cambrioler une distillerie. Le truc totalement débile et vraiment pathétique, avoir vu une centaine ou un millier d'autres planètes et d'autres espèces et se retrouver abattu par les policiers sur sa propre planète. Voilà. L'auteur nous met vraiment devant les enjeux actuels de notre civilisation et de notre consumérisme. En mettant un postulat d'autres espèces, la fin n'est pas optimiste. Elle n'est pas pessimiste non plus. Elle est totalement réaliste vu la psyché du personnage. Et en fait, c'est une fuite en avant perpétuelle que fait ce personnage-là pour échapper à ses problèmes, pour échapper aux problèmes de notre société. Et en se disant que de toute façon, bah, au bout d'un moment, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ouais, mais l'être humain est un animal grégaire. Être seul, c'est mourir. Je vous laisse sur cette citation. Je vais aussi vous parler d'une autre BD, mais tu as une question.
Et il fait combien de pages, là? Parce que ça me paraît petit, vraiment, pour tout ce que tu nous as raconté.
Il est vraiment tout, tout petit. Et c'est la force de Laurent, c'est qu'il va vraiment à l'essentiel. Ouais. On est à 114 pages. Ouais. Une heure et demie, deux heures pour les lecteurs comme Karine. Bis pour la blague. Il n'y a pas de souci pour le lire. Non, non. C'est vraiment... les décors sont extrêmement succincts. On voit vraiment l'environnement du personnage, pas la totalité du monde. Les interactions avec les aliens sont très succinctes. On les décrit, mais comme on est sur la perception d'un être humain, on va pas à l'intérieur des personnages. On n'est pas omniscient dessus. On est vraiment très, très en premier degré. Voilà.
Tu voulais nous parler d'autre chose?
Je vais vous parler d'autre chose, puisque j'ai un petit plaisir coupable, il faut que je vous l'avoue. Et moi, il n'y a pas de triple X, Romain. Mon petit plaisir coupable, c'est Star Wars. Récemment, Panini Comics a décidé de rééditer certains des comics, et Pocket a ressorti des livres de poche. Et là, ce soir, j'ai offert à Karine, bon anniversaire Karine, Karine une anime. BD d'un livre que j'ai très apprécié, puisque je l'ai lu d'abord en poche, et qui est basé sur le personnage de Trône. Alors, pour les petits jeunes... comme Karine. Trône, c'est un amiral de la marine impériale qui combat les rebelles, notamment de la série d'animé Rebelles, qui est sortie dans les années 2010 à peu près. C'est un personnage schiste, c'est-à-dire qu'il est bleu aux yeux rouges. Mais pour les vieux, comme Romain ou comme moi, nous avons pu découvrir ce personnage dans le premier univers étendu de Star Wars, et c'était la croisade noire du Jedi Fou, qui aurait dû initialement être le Star Wars 7, 8, 9. Ça s'est déroulé autrement. Je ne peux que vous conseiller ce roman-là ou cette BD-là, qui se base sur le moment où Trône, venant d'une civilisation vraiment extérieure à la galaxie de Star Wars, c'est un consortium schiste qui n'est pas découvert dans Star Wars, et on va découvrir ce personnage-là qui a décidé de rentrer dans l'Empire pour devenir un agent à l'Empire, à l'Empereur, et qui se finit par la force des choses à être amiral, voire grand amiral de la marine impériale, et donc être un ennemi des rebelles, alors même qu'il n'est pas forcément pro-impérial. C'est l'antithèse de Dark Vador, car ce n'est pas un Sith, ce n'est pas un Jedi, il n'a rien à voir avec la Force, et surtout comme il fait partie d'un autre groupement de planètes, il ne connaît rien à la Force. Mais c'est un homme d'une intelligence pure, et c'est sans doute le plus grand amiral de l'Empire, et celui qui a pu contrecarrer plusieurs fois les avancées de la rébellion. Je ne peux que vous le conseiller. Vous le retrouvez, ça se lit très rapidement, en une demi-heure c'est plié, mais c'est une BD et c'est un roman qui vous laisse sur votre faim à la fin, car c'est un personnage qui n'est ni bon ni méchant lui non plus, et qui n'agit que par nécessité, et c'est surtout la personne qui envisage la guerre par la culture. Il étudie d'abord la culture et les arts des planètes et des civilisations avant de se battre contre eux. C'est vraiment un personnage extraordinaire qui avait été inventé par Timothy Zahn en 1997.
Et il y avait trois romans en fait.
En fait, il y a eu un cycle de trois romans et un deuxième cycle de trois romans.
D'accord. Et là, donc, il est refait en comics. Voilà.
Comme les romans n'existent plus dans le canon fait par Disney de Star Wars, ils ont ressorti quelque chose.
Chez Urban Comics, non ?
Chez Panini Comics.
D'accord, hein, oui, tu l'as dit, c'est vrai. Ok. Ben merci Pierre-Marie, et maintenant on va s'écouter les chroniques de Sébastien. Il est enregistré chez lui.
Coucou les amis, je suis heureux de vous retrouver sur le 101.5 FM pour vous parler d'un nouveau livre-jeu interactif, Le Fantôme du Louvre. D'une collection inédite, Les Enquêtes Impossibles, parue au mois de juin de cette année chez Albin Michel Jeunesse, écrit par Bertrand Puard et illustré par Aurélie Garino. Et ce n'est qu'au prix de 11,90€, un beau livre de format moyen. Alors nous avons ici Un meurtre faussement surnaturel de Claude Bellet, le directeur du musée du Louvre, dans une pièce fermée de l'intérieur, sans qu'aucun passage secret ne communique avec la dite pièce. Or, c'est un clin d'œil au roman de Gaston Leroux, Le mystère de la chambre jaune. Le fantôme du Louvre est une enquête très bien construite, mais qui ne se contente pas de juste faire la lumière sur qui est la personne coupable. Parmi quatre suspects, nous aurons aussi à déterminer son mobile et son modus operandi. On a également une bonne plongée dans le Paris de la Belle Époque qui nous emmène à évoluer tant dans le monde artistique que dans les beaux quartiers mal famés de la capitale. Alors c'est intéressant que nous en voyons la face belle et pauvre tout à la fois. J'ai beaucoup aimé l'immersion dans le quartier de la Goutte d'Or, tout comme le rappel des luttes sociales de l'époque. C'est bien qu'un livre-jeu interactif puisse donc instruire le lecteur, mais nous sommes quand même dans une fiction historique, comme nous aurons une création par l'auteur de la Ligue des Détectives de Papier, la LDP. C'est-à-dire que c'est des figures littéraires plus ou moins connues qui viennent donc pour aider le héros ou l'héroïne donc de ces enquêtes impossibles. Dans le cas du fantôme du Louvre, on a Arsène Lupin, donc sur Paris même, qui va venir nous prêter main forte dans un des cahiers de l'enquête. Alors j'ai même cru soupçonner, les amis, que le dessin de la page 195, parmi les personnages qu'il illustre, eh bien, rappelle dedans un cher Edgar de la Cambriole, un dessin animé qui parlera aux adultes que vous êtes. Alors je reste impatient pour tout vous dire, des volumes des Enquêtes Impossibles qui permettront donc de nous voir épaulés par Joseph Rouletabille, le chevalier Auguste Dupin, des enquêteurs fictifs moins connus qu'un Sherlock Holmes, par exemple, et qui sont cités d'ailleurs par l'auteur, page 184. Dans le fond, les jeunes et moins jeunes seront tentés de replonger dans la littérature policière datant du 19e, début du 20e siècle, à laquelle le fantôme du Louvre fait intelligemment référence. Sinon, il ne s'agit pas que notre mémoire flanche, à l'instar d'un autre livre d'enquête, plus actuel, Le Bureau des Légendes, chez 404, paru, lui, en mai, et écrit toujours par Bertrand Puard. La plume alerte de l'auteur épouse bien la durée d'une journée, pas plus, que notre enquête épouse dans Le Fantôme du Louvre. Mais il ne faut pas oublier, ceci dit, malgré le rythme trépidant de l'enquête, de prendre régulièrement des notes. Parce qu'on a quand même à déterminer un coupable, son mobile et le modus operandi. Mais l'auteur donc nous aide en indiquant dans certaines pages. Et en fait, il y a des encarts textuels avec des loupes. Donc on sait qu'à ce moment-là, il y a des informations capitales qu'il faut prendre. Mais il y a quand même un tri à faire. C'est pas aussi simple. On a également une petite liberté de mouvement, ayant à progresser dans certains points de Paris signalés sur une carte en tout début d'ouvrage. Alors Bravo pour le moment des plus distrayants, passé à être Tristan, le jeune héros de l'histoire, qui, ami du commissaire de la Sûreté Générale, appartient à une société secrète attachante, les Jarboises. Des enfants orphelins abandonnés qui s'entraident et qui vivent dans une station de métro parisienne désaffectée. Albin Michel Jeunesse, après la collection 30 minutes pour survivre, continue décidément de creuser son beau sillon dans la littérature interactive. Donc pour moi, c'est un coup de cœur estival et il n'est pas impossible que je vous reparle des enquêtes impossibles. Vraiment, bon, merci pour le jeu de mots, on est l'été. Donc à la rentrée, car il y a un deuxième tome qui est paru en même temps, second, Mystère sur la Tamise, où on incarne cette fois non un héros, mais une héroïne, Émilie. Mystère sur la Tamise, donc Angleterre, qui dit Angleterre dit Sherlock Holmes, évidemment. Et pour prolonger le plaisir donc des enquêtes, je vous invite à vous reporter donc sur les Cluedo enquêteurs de mon ami donc Bertrand Puard, et dont le dernier tome est paru, c'est Meurtre sur l'île, en juillet. Donc cette fois chez la Bibliothèque Verte. Voilà, voilà, et je vous laisse maintenant, non pas sur un air de piano, mais sur un air guiré, celui de Pierre Davenkeller, Bossa Nova, sur le 101.5 FM, pour fêter l'été, en votre compagnie. À très vite.
Allez, c'est l'heure d'écouter l'interview d'Émilie Kerbalek dans Imaginaire sur le 101.5. Donc, qu'on avait fait aux Utopias là, à l'occasion de la promotion de son précédent roman.
Alors, oui, oui et non. C'était Quitter les mondes d'automne,
ouais,
qui était sorti en 2020, donc un an
avant
les Utopiales. Mais les Utopiales avaient eu la même politique que nous, à savoir qu'en 2020, il y avait eu le Covid et qu'ils avaient quand même réitéré les invitations qui auraient dû se faire en 2020.
Donc là, il y a une nouveauté qui sort.
Le 31 août 2022, sa nouveauté sort. Toujours chez Albin Michel Imaginaire, et je suis vraiment désolé pour la prononciation, mais voilà, c'est les chants de Nuing.
Dac, allez, on s'écoute ça tout de suite sur le 101.5.
Bonjour sur Radio Géo 101.5, l'association Imaginaire, et cette fois-ci en présence d'Émilie Kerbalek.
Bonjour, merci de me recevoir.
C'est un énorme plaisir, on a essayé de t'avoir dès qu'on a vu ton nom sortir. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es un peu une sorte de nouvelle arrivante dans le milieu de l'imaginaire, puisque tes premières publications de 2014.
Tout à fait.
Tu as commencé une nouvelle en 2014, plusieurs parutions, notamment dans des recueils de récits mal perpétués, nos chers amis parisiens, et un roman, enfin une novella, grande novella, en 2014 aussi, La Reine de Zangalar. Et tu ne t'es pas arrêtée à ça.
Tout à fait. Donc j'ai continué à proposer des textes à des revues, fanzines, etc. Et j'ai un premier roman qui est sorti en mai 2018 chez Nats Éditions. Et ensuite, en 2020, effectivement, chez Albin Michel Imaginaire, une nouvelle en numérique gratuit. Un roman, donc Quitter les mondes d'automne.
Qui a reçu un très bon accueil public.
Oui, je suis vraiment très surprise et très heureuse de la curiosité que les gens ont manifestée vis-à-vis de ce roman. C'est vraiment une belle surprise. Donc merci. Merci beaucoup aux lecteurs, aux blogueurs, Instagrammeurs, tout ça qui ont fait vivre ce roman.
Ton roman chez Albin Michel Imaginaire présente une pagode chinoise-japonaise sur sa couverture.
Oui.
Dans tes bios qu'on trouve un peu partout, on voit une naissance au Japon notamment. Oui. Cet imaginaire-là est resté très ancré.
Oui, il est très présent, mais dans le roman en particulier, je l'ai écrit parce que j'avais besoin de recréer un petit peu ce monde japonisant. C'était un besoin à ce moment donné-là de ma vie, donc je me suis lancée dans la création de dans l'imagination de cet univers. Mais ça ne veut pas dire que dans toutes mes histoires, je vais utiliser ce matériau-là, en fait. Parfois, je vais chercher mon inspiration ailleurs, dans d'autres domaines, d'autres cultures. Mais c'est vrai que c'est présent et j'ai eu beaucoup de plaisir à puiser à cette source-là.
Alors justement, puisque tu ouvres le sujet sur ta biographie de Babelio, puisque c'est un petit peu la seule chose qu'on arrive à trouver hormis le site Albin Michel Imaginaire, on voit que ton travail de tous les jours nourrit ton imaginaire et que tu as choisi ce travail-là de manière à justement voyager et écrire.
Oui, alors quand j'étais plus jeune, j'étais très curieuse de rencontrer d'autres cultures en fait que la mienne, donc d'autres cultures que la franco-japonaise. Donc j'ai voyagé un petit peu en Afrique par exemple, du Nord, Afrique ou Afrique noire ou en Amérique latine. Puis au bout du compte, finalement, avec la vie et les contraintes, je voyage beaucoup moins. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'écris des histoires où mes protagonistes se mettent, partent pour des périples lointains, c'est que je suis frustrée de ne pas pouvoir voyager. Et certainement. Mais sinon, mon travail actuel nourrit aussi mon inspiration, c'est sûr, mais ça n'a plus grand-chose à voir avec le voyage. Je travaille dans la santé, donc c'est autre chose.
Et justement, quand on voit les couvertures des livres sur lesquels tu as envoyé des nouvelles, je pense notamment à Malpertuis, on voit beaucoup de fantastique. Or, ton roman chez Albin Michel Imaginaire traite totalement de la science-fiction.
Oui.
Il y a eu un virement.
J'ai toujours été attirée par le fantastique et la science-fiction. J'aime les deux en fait. Donc les nouvelles chez Malpertuis, effectivement, c'est à peu près peut-être les seules nouvelles fantastiques que j'ai pu écrire. Il se trouve que ça matche bien avec l'éditeur Thomas Bouduré. En général, il prend mes textes, alors c'est cool, ça tombe bien. Il y a des œuvres de fantastique qui m'ont beaucoup inspirée, d'autrices japonaises justement, que j'ai lues quand j'étais plus jeune, adolescente. Je pense par exemple à Yoshimoto Banana, ça a été traduit en fait en français. Son recueil s'appelle, Kitchen. Voilà,
ça, en anglais.
Ouais, c'est Kitchen en anglais, oui. Mm-hmm. Et c'est du young adulte en fait. Maintenant, je me rends compte que si on devait le vendre en librairie, ce serait vendu sous le signe young adulte. Mm-hmm. Je l'ai lu quand j'étais ado. Et c'est des nouvelles qui parlent de. Il y a des histoires de fantômes, etc., mais dans un monde contemporain japonais. Mm-hmm. Et ça m'a beaucoup marqué et influencé, je pense.
Quand on pense à l'imaginaire, excuse-moi, je t'ai un peu coupé. Ouais, quand on pense à l'imaginaire japonais et fantastique japonais, mm-hmm, c'est souvent de l'horreur.
Ouais.
C'est quelque chose que tu apprécies écrire,
L'horreur, non. En plus, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Et non, l'horreur, ça, je n'écris pas d'horreur. Mais par contre, j'écris des histoires avec des fantômes, des choses comme ça. Mais ça bascule jamais vers le côté horrifique.
D'accord.
J'ai une sorte de barrière psychologique avec l'horreur.
Et donc, pour ton roman sur la science-fiction, on parle du voyage. Oui. Ton personnage s'en va. Pourquoi le voyage ?
Le voyage, c'est la quête de soi, c'est la quête initiatique, c'est la rencontre avec l'autre. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans un voyage. Ça peut être un voyage intérieur, un voyage dans d'autres pays. C'est un thème qui est très vaste aussi. Et donc, oui.
Très bien, bonne réponse. Alors, je suis désolé, d'habitude, je regarde les expressions pour savoir quand est-ce que je peux parler ou pas. Le voyage... Quand on parle de science-fiction, normalement, il y a des personnes qui parlent de science-fiction prospective où on imagine la vie de demain, et il y a d'autres personnes qui parlent de science-fiction comme étant littérature à message. Donner des idées. Toi, tu te places où ?
Je ne pense pas être trop dans la prospective, en tout cas avec Quitter les mondes d'automne. C'est vraiment, vraiment de l'imagination. Et oui, certes, il y a des thématiques comme le transhumanisme, etc., qui sont derrière l'intrigue, mais... pour quitter les mondes d'automne, non. Dans certaines nouvelles, oui, je me suis lancée dans ce type de réflexion, de spéculation. C'est amusant. Mm-hmm. Mais je ne sais pas si ça peut me nourrir suffisamment pour écrire sur du long format, en fait. Format plus long.
Très bien. On va partir sur un sujet un petit peu délicat qui est celui de l'appropriation culturelle. Mmh. Tu acceptes ?
Ah ouais.
Parfait.
Tout à fait.
J'ai deux thèmes comme ça, appropriation culturelle et sensitivity with us.
Ok, allons-y.
Bon
ouais. Non, c'est des sujets sur lesquels j'ai pas mal réfléchi, donc...
Tu écris donc sur la culture japonaise, tu te revendiques plutôt d'une culture française, on parle même de ta langue maternelle français, alors que ce n'est pas le cas. À l'heure actuelle, où on fait attention... à l'appropriation culturelle, c'est-à-dire le fait que des personnes puissent écrire sur une culture qui ne leur appartient pas. Mmh. Nous avons d'ailleurs interviewé Florian Soulas à ce sujet-là.
Oui.
Est-ce qu'il peut arriver qu'on te demande, toi, de m'étalir sur ce point-là ?
Récemment, une autrice m'a demandé si j'étais d'accord pour la relire quand elle était sur un projet, justement, d'une histoire qui se passe au Japon, si je voulais la relire. Et je lui ai dit oui, je peux la relire, il n'y a pas de souci. L'appropriation culturelle, je me suis vraiment beaucoup posé la question. Mais je pense qu'en fait, c'est particulier la culture japonaise, parce qu'avec les mangas, en fait, avec ce soft power, ça a vraiment imprégné complètement, je pense, au moins deux générations de lecteurs et d'amateurs d'imaginaire. Et du coup, ces choses-là sont présentes aussi dans leur imaginaire. On peut dire que ça a germé, ça a fleuri, ça a grandi. Donc je comprends cette appétence pour la culture japonaise, cette curiosité, ce désir d'écrire des histoires qui se passent dans les univers qu'ils ont aimés quand ils étaient jeunes. Mais il est vrai que quand on lit un auteur japonais et un auteur français qui écrit une histoire qui se passe au Japon, on voit bien tout de suite que c'est pas pareil, c'est pas la même sensibilité. Sous le texte, on sent bien que c'est pas la même culture qui est derrière. Et quand c'est bien fait, il n'y a pas d'erreur ou d'interprétation ou des choses vraiment trop grossières. Quand c'est mal fait, ça peut être choquant, effectivement.
On le voit pendant ce festival où l'exposition phare est celle de Goldorak, qui est quand même la culture japonaise transmise il y a deux générations, comme tu le disais. Le fait que des personnages aient une mentalité étrangère et autant imprégné la France, est-ce qu'on pourrait parler d'une transmission culturelle plus que d'une appropriation ?
Je pense qu'on peut parler, de ça, d'influence en tout cas, et puis après les imaginaires ils s'hybrident un petit peu, je pense, et ça marche dans les deux sens en fait, parce que, je vais prendre l'exemple de Hayao Miyazaki, lui aussi il a été influencé par la culture occidentale en fait, il a pris même des figures, la figure de la sorcière par exemple, donc qui est la petite sorcière, lui aussi il a emprunté en fait aux cultures étrangères pour nourrir son propre imaginaire.
D'accord.
Donc ça va dans les deux sens. Après, ce sont des puissances économiques qui sont à peu près à égalité. Donc, je pense que là où ça devient très gênant, c'est quand il y a une culture qui est plus prédatrice que l'autre et qui va utiliser des histoires, qui va les puiser dans des répertoires qui ne lui appartiennent pas par héritage, on va dire, et qui vont les utiliser et se faire plein de fric avec.
D'accord.
Et au détriment peut-être d'autres auteurs de ces pays ou de ces cultures qui auraient pu raconter ces histoires et voilà, mais qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas la visibilité en fait qu'ont les auteurs occidentaux ou peut-être asiatiques aussi qui font ça.
Et à l'époque où on entend régulièrement parler du on ne peut plus rien dire, tout ça, il se pose la question des own voices, les personnes qui parlent d'elles-mêmes, de leur propre culture. Est-ce que tu as été à un moment donné rencontrée par ce problème-là, où tu es une Française qui écrit sur, une autre culture, même si c'est ta culture d'origine. Est-ce que tu peux en parler un peu de ça ?
Eh ben, c'est-à-dire que je suis française et je suis japonaise, en fait. Donc, je me sens ni légitime ni illégitime pour écrire sur la culture française ou la culture japonaise. C'est une sorte de réappropriation, en fait, d'une culture qui est la mienne, en fait. Pour quitter les mondes d'automne, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que j'écris comme une Française, parce que j'ai été à l'école japonaise jusqu'à l'âge de 6 ans, mais après, je suis passée à l'école française, et toute mon éducation en français, ma culture littéraire, elle est française. Et donc, j'écris pas comme une Japonaise, mais le matériau sensoriel, on va dire, ou les souvenirs, etc., que j'avais injectés dans l'histoire sont authentiquement de mon expérience vécue là-bas, de petite japonaise. Mais pour les Japonais, je ne suis pas une Japonaise, je suis une moitié. C'est comme ça qu'ils appellent les Eurasiens, en fait, des moitiés. Donc c'est vraiment bizarre, on est des moitiés, donc je suis moitié.
Je te pose toutes ces questions-là par rapport à un autre auteur qui est à peu près dans la même situation, qui s'appelle Ken Liu. Est-ce que ça te parle un petit peu ?
J'aime beaucoup Ken Liu. C'est l'un de mes auteurs de SF préférés. Ouais.
On lui a reproché, notamment à cause de la ménagerie de papier, d'avoir écrit sur la culture chinoise alors qu'il n'est pas chinois. Ses parents l'étaient, mais lui ne l'était pas. Est-ce qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'on pourrait pas parler d'une amputation du droit d'écrire ? Ou de fantasmer. Le terme fantasmer est galvaudé. Mais...
Je crois qu'il y a eu des abus, peut-être. Hein. C'est pour ça que les gens sont sensibles sur ce sujet. Mais Ken Liu, je suis très surprise, parce que Ken Liu, il est américain, certes, mais il est d'héritage chinois, en fait. Donc c'est normal qu'il ait envie d'écrire sur ces sujets. Ça me semble tellement naturel, en fait. La ménagerie de papier, il y a une nouvelle qui est sublime, qui m'a fait pleurer. C'est l'histoire d'une femme qui a acheté sur catalogue par un Américain, une Chinoise, par un Américain. Et elle essaye de transmettre sa culture à son enfant, mais l'enfant qui a besoin de s'intégrer dans la société américaine, il la rejette en quelque sorte. Et franchement, c'est une belle histoire, mais qui d'autre aurait pu écrire ça que Ken Liu, justement, qui est américain et d'héritage chinois, je veux dire.
Cette nouvelle-là, c'est La Ménagerie de Papier, c'est celle qui donne le nom
C'est celle-là, d'accord, à l'anthologie. Okay. Ouais. Moi, elle m'a fait pleurer.
Bah oui, c'est pas la seule qui fait pleurer chez Ken Liu.
Ouais, c'est vrai qu'il joue pas mal sur la fibre émotionnelle.
Et alors les sensitivities ou BDS, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est ?
Je ne suis pas la plus calée pour expliquer ce que c'est, mais ce que j'en ai compris, c'est qu'en fait, justement, pour éviter que des auteurs utilisent des thématiques d'autres cultures en racontant n'importe quoi, en gros, on fait relire en fait à des personnes concernées qui connaissent cette culture, soit parce qu'elles sont de cet héritage-là, ou soit parce qu'elles y ont vécu, ou je ne sais pas en tout cas, qui la connaissent bien, pour voir s'il n'y a pas d'erreurs trop grossières, ou des mauvaises interprétations, ou des choses, ou des biais en fait, pour repérer un petit peu les biais qui peuvent transparaître malgré tout dans l'écriture. Pourquoi pas ? Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai voyagé en Afrique parce que j'étais fascinée par les cultures africaines, etc. Et je le suis toujours en fait. Hein, j'ai beaucoup de collègues qui vivent en France, mais qui sont du Congo ou du Sénégal ou du Mali, etc. Et j'adore en fait discuter de leur culture, de leur manière de voir le monde, etc. Mais jamais je ne pourrais écrire en fait une histoire en empruntant des mythes ou des choses comme ça de cette culture-là, parce que je me sens totalement étrangère en fait. Pour le coup, je me sentirais illégitime, effectivement. Mais ça m'est arrivé d'emprunter des sources d'inspiration qui ne sont pas du tout en rapport avec ma propre culture. Pour des nouvelles, ça m'est arrivé.
Pour rester un petit peu, mais pour rattraper avec tes romans, la science-fiction et le fantastique, plus globalement, l'imaginaire globalement, part du principe que comme on imagine un monde, on peut y transposer n'importe quelle culture dedans et pouvoir discuter de cette culture-là. Utiliser à tort et à travers, mais justement, est-ce que tu ne pourrais pas écrire sur ces cultures qui te donnent envie et le fait de passer sur de la science-fiction qui redonnerait accès, même si tu n'es pas légitime?
C'est vrai que la science-fiction et même, je pense, la fantasy, ça permet d'en parler de manière allégorique. Donc, Ursula Le Guin, elle l'a fait vachement bien, hein, de parler justement des rapports entre les cultures, etc. Oui, pourquoi pas. J'ai pas envie de tomber dans l'exotisme, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment les gens vivent et voient le monde, ressentent le monde. Dans le roman suivant, en fait, je parle justement du brassage culturel, des difficultés de relations, de communication qui peuvent survenir entre personnes de cultures différentes quand elles sont amenées à vivre ensemble. C'est un sujet, effectivement, qui me fait réfléchir pas mal. Donc, j'en parle.
Du coup, tu viens de sortir en 2020 ton roman chez Albin Michel, mais la suite, quelle suite y aura-t-il ?
Il n'y aura pas de suite à Quitter les Monts d'Automne, a priori, même si il y a de matière pour. Il y a des choses que j'ai écrites justement pendant le projet Quitter les Monts d'Automne que j'ai élagué et qui sont de côté. La suite, ça sera... Il y a une nouvelle en préparation dans un recueil collectif chez un autre éditeur. Un hommage à un auteur de science-fiction français, mais comme je ne sais pas si l'éditeur a communiqué dessus, moi je ne sais pas si je peux en parler. Et il y a un roman qui est, on va dire, dans la matrice.
D'accord. Et une sortie à quelle échéance ?
Je ne crois pas que je puisse trop en parler.
Très bien.
À ce stade-là.
Mais en tout cas, tu as des projets d'écriture et tu ne t'arrêteras pas là.
Oui. Voilà.
Tu es prête pour le portrait chinois ? Si jamais l'association, comme toutes les associations françaises, est extrêmement riche et on te proposait d'acheter le vaisseau spatial de ton choix.
Alors, j'ai pensé à... Non, alors d'abord, l'idée qui m'est venue, c'est l'Enterprise. Mais en fait, le vaisseau qui m'a fait le plus rêver, je pense, c'est celui de Sankukai, vous savez, celui, le voilier. Je ne sais pas si vous voyez l'image, ce voilier blanc un peu féerique qui traverse les espaces interstellaires. Et ben voilà, je veux celui-là.
Un voilier, pas quelque chose de mécanique.
C'est un voilier spatial.
Très bien. Imaginons que tu puisses rencontrer là, maintenant, tout de suite, un auteur décédé ou vivant pour parler avec lui d'un sujet très précis.
Eh bien, Ken Liu, justement, j'aimerais beaucoup pouvoir parler avec lui de ça, d'être immergé dans une société donnée, avec un héritage culturel qui n'est pas forcément le même que tous les autres membres de cette société, comment on le vit, comment on l'exprime, comment on en parle dans ses livres. Je pense que ça me plairait beaucoup de pouvoir échanger avec lui.
Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien pouvoir échanger.
Ouais, ça ne m'étonne pas.
Je te laisse la possibilité de devenir un animal, existant ou non.
Je voudrais bien être un tanuki.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
C'est ces petits animaux fantastiques japonais qui sont capables de se transformer en, vous savez, comme dans Pompoko, en tout ce qu'ils veulent, en être humain par exemple.
D'accord. Ouais. Le changement toujours.
Ouais, c'est ça, transformation et changement.
Cette interview a été très agréable mais touche à sa fin. Comme je te le disais, il va falloir que tu choisisses la musique.
Ah oui, et donc la musique, eh bien, je pense à Space Oddity de David Bowie. Ça c'est une musique bien tripante et je pense qu'elle est d'occasion là pour les utopiales.
Merci beaucoup Émilie.
C'est moi qui te remercie.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6,
commencing countdown, engines on. Check ignition, and may God's love be with you. This is ground control.
On va se quitter sur ce morceau de Bowie. Des choses à annoncer? Alors, emilykerbalek.com, voilà, si vous voulez avoir un peu plus d'infos, notamment peut-être sur sa nouveauté. J'ai vu que c'était encore une jolie couverture de Manchu, c'est cool ça. Moi, je voulais quand même dire que cet été, dans le coin, il y a le nouveau théâtre populaire qui est basé à Fontaine-Guérin. Ouais, c'est dans le département. Qui fait pas mal de théâtre et notamment ils adaptent 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc, je pense que c'est à voir. Il y aura aussi Robin des Bois et la Reine des Neiges, mais version le conte d'Andersen. Eh ben, ça va être l'heure de se quitter. On se donne rendez-vous dans 2 semaines sur le 101.5. Oui.
À bientôt.
Ils sont partis déjà.
On attendait que tu finisses de parler.
À plus.
À très bientôt.
Radio G 101.5.